VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 18h à Niamey, 19h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, est la guerre contre Boko Haram. Le président nigérian Muhammadu Buhari est en visite officielle au Niger. Son premier déplacement à l'étranger depuis son accession au pouvoir. Son homologue nigérien Muhammadu Issoufou a annoncé hier à Paris la mise en place d'une force multinationale destinée à combattre le groupe islamiste dans les prochaines semaines. Des troupes du Niger, du Tchad et du Cameroun aident déjà le Nigeria dans sa lutte contre Boko Haram. Nouvelle journée de tension au Burundi en attendant un éventuel report des élections qui sont toujours prévues pour vendredi. L'opposition burundaise se déclare ouverte à une reprise du dialogue avec le pouvoir. Nicolas Pineau.
Oui, c'est un premier pas timide puisque les 17 partis et organisations politiques affirment leur engagement à poursuivre le dialogue entre les parties prenantes au processus électoral en vue de l'organisation d'élections crédibles. C'est ce que dit la déclaration publique. Cette déclaration est une réaction officielle au sommet des chefs d'État de la région qui s'est tenu dimanche en Tanzanie et a demandé le report au moins jusqu'à mi-juillet des élections. Cette réaction marque une inflexion de la position de ces partis politiques de l'opposition qui exigeaient jusqu'à présent comme préalable à toute discussion le retrait de la candidature de Pierre Nkurunziza. Cependant, les opposants burundais affirment ne pas avoir changé d'avis sur la question, mais formalisent un cadre de dialogue voulu par les dirigeants de l'Afrique de l'Est. Dans les rues de Bujumbura ce mercredi, la police est quasiment parvenue à empêcher tout rassemblement au cœur des quartiers contestataires. La nuit dernière, un militant des FNL a été tué par une grenade jetée dans sa maison pendant la nuit dans le quartier de Buterere, selon des habitants qui ont accusé les Imbonerakure, les ligues de jeunesse du parti au pouvoir, d'avoir commis l'attaque.
Les élections législatives et communales sont prévues en principe ce vendredi, mais est-ce encore possible? La réponse de Prosper Natorwamye, chargé de la communication de la CENI, la commission électorale burundaise, il répond aux questions d'Idriss Fall.
D'abord, ce n'est pas la CENI qui va faire le report puisque l'acte de confirmation de cette décision relève des compétences du président de la République. Nous, au niveau de la CENI, nous avons fait des propositions compte tenu de la déclaration des chefs d'État de la sous-région de l'EAC. Nous attendons la décision définitive de la part de l'autorité compétente.
Et vous avez fait quelles propositions?
Les propositions sont des propositions, ça ne se dit pas, on attend la décision.
Est-ce que techniquement la CENI peut organiser des élections d'ici vendredi?
Non, on attend la décision puisqu'il y a une recommandation des chefs d'État de la sous-région et qui visiblement va être tenu en considération. Nous attendons d'un moment à l'autre la décision de l'autorité compétente.
Prosper Ntaorwamye, chargé de la communication de la CENI à Bujumbura. Suite de l'affaire des viols présumés d'enfants par des soldats en Centrafrique, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, prévoit de mettre en place une enquête externe indépendante sur ces agressions sexuelles présumées par des soldats français et africains qui étaient à ce moment-là déployé en République centrafricaine. En Côte d'Ivoire, le procès de 9 officiers ivoiriens, dont 2 piliers de l'appareil sécuritaire de l'ex-président Laurent Gbagbo, sont accusés de nombreuses exactions et donc leur procès s'ouvre demain à jeudi à Abidjan. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la justice militaire. Jacques Aristide.
Ce sont les commandants Jean-Noël Abéi et Anselme Sekayapodzi Sekaseka et 7 autres officiers qui doivent comparaître en cour demain, d'après le procureur militaire Ange Kessy. Le procès, ouvert au public, se tiendra au sein de l'état-major de l'armée à Abidjan Plateau pour des raisons de sécurité. 7 des officiers sont accusés de violation de consignes, tandis que le commandant Abéi est poursuivi pour désertion à l'étranger et complot. Ancien chef de l'escadron blindé d'Agban, le plus grand camp de gendarmerie du pays, Jean-Noël Abéi avait pris la fuite après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. L'officier est considéré par ses détracteurs et des ONG internationales comme l'un des principaux responsables d'exactions sous le régime Gbagbo, notamment durant la crise. Quant au commandant Selma Sekayapo, il est accusé d'assassinat, meurtre, blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes, recrutement de mercenaires et entretien de milices. Les accusés risquent entre 3 ans et la prison à vie, selon le parquet militaire.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
suite du scandale de la corruption au sein de la FIFA, la démission de Joseph Blatter, annoncée hier, a ouvert un immense chantier à la FIFA où sa succession est ouverte sur fond d'interrogation. Blatter, 79 ans, dont près de 40 à la FIFA, a renoncé hier à sa charge à peine 4 jours après avoir été réélu pour un 5e mandat. Pour plusieurs médias américains, Joseph Blatter est désormais clairement dans le collimateur de la justice américaine. Son successeur ne devrait pas être connu avant un congrès extraordinaire prévu à Zurich entre décembre 2015 et mars 2016. Quelques réactions maintenant en provenance du Burkina Faso à cette démission surprise hier. Que réaction qu'a recueilli notre correspondant Zoumana Wanogo.
Pour Jean-Pierre Palme, ancien ministre des Sports du Burkina, l'occasion est belle pour regarder aussi du côté de la gestion des fédérations africaines de football.
Aujourd'hui, je ne vois pas un ministre africain qui peut dire combien la FIFA verse dans nos fédérations. Parce que les ministres n'ont même pas un droit de regard sur les fédérations. Tant que vous tapez du poing, on dit « Ah, le ministre, là, va sauter parce que la FIFA est apolitique. » Apolitique, il n'y a pas d'apolitisme en matière de gestion financière. Et je ne vois pas pourquoi cette règle-là est voilée au niveau de la FIFA. Et si on prend ceux qui ont supporté, c'est les Asiatiques et les Africains. On y gagne quoi? Surtout le championnat au niveau de nos États, pratiquement tous les championnats sont aujourd'hui larvés. Tous les pays de l'Afrique noire, les championnats sont nuls. Tout le football en Afrique est en train de mourir de sa belle mort. Les bureaux fédéraux, les membres sont en train de grossir et ça n'écœure personne. Et ça, je dis non.
À l'allure où vont les choses, le président de la CAF, Confédération africaine de football, Issa Ayatou, n'a-t-il pas des soucis à se faire? Suivant l'analyse de Richard Yamego, il est journaliste sportif à la télévision nationale du Burkina.
On peut craindre pour le fauteuil de Ayatou parce que la justice n'a pas encore fini son travail. Et puis, il est cité dans certaines affaires, notamment dans certaines attributions de Coupe du Monde. Il est certain que Ayatou va connaître des problèmes. Et puis, d'un côté, il sera malmené à la FIFA parce qu'il avait choisi le camp de Blatter. Alors que Blatter va débarrasser le plancher, maintenant quel président viendra et quels seront les rapports que la CAF va entretenir avec le nouveau président? Parce que l'UEFA disait que non, véritablement l'Afrique, on ne peut pas compter sur elle. Parce qu'avec les Africains, on ne parle pas d'éthique, mais c'est des rapports d'argent et à partir de là, tout se gâte. Donc forcément, la CAF va souffrir.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Quelques news internationales maintenant. Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a promulgué la loi qui met fin à la collection massive de données téléphoniques par le gouvernement américain. Une pratique qui visait, dit-on, à empêcher les attaques terroristes après les attentats de septembre 2001 aux États-Unis. Idrissa Sedoudia.
Selon le président Obama, cette nouvelle loi protège mieux les libertés civiles et la vie privée, tout en assurant la sécurité nationale des États-Unis. Quelques heures plus tôt, mardi, le Sénat avait adopté à une majorité écrasante le projet qui avait été auparavant approuvé par la Chambre des représentants. Au terme de cette nouvelle loi, les compagnies de téléphone américaines et non plus la très secrète Agence de la sécurité nationale vont collecter et stocker ces métadonnées de citoyens américains, c'est-à-dire l'heure, la durée, le numéro appelé et non pas le contenu des appels eux-mêmes. Désormais, pour examiner ces données, les enquêteurs fédéraux auront besoin d'une décision d'un tribunal s'ils soupçonnent quelqu'un d'avoir contacté des terroristes connus ou présumés. Les détracteurs de l'ancienne loi la qualifient d'atteinte à la vie privée de millions d'Américains qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme.
Et la guerre, pour terminer, la guerre contre le groupe État islamique. Anthony Blinken, un haut responsable du département d'État américain qui vient de participer à la conférence de Paris sur la lutte contre les djihadistes, a évalué aujourd'hui à plus de 10 000 le nombre de militants de l'État islamique tués depuis le début de la campagne aérienne de la coalition, campagne menée par les États-Unis contre le groupe extrémiste. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes avec Le Monde Aujourd'hui, présenté par Nathalie Barge et Chérubin Dorsil. Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur voaafrique.com, mais également sur notre page Facebook, VOA Afrique, bien entendu. Très, très bonne soirée à l'écoute de nos émissions.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.